J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Gina avec nous à l'antenne. Bonsoir Daniel.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors c'est un plaisir de t'avoir à nouveau avec nous à l'antenne. Voilà, donc ce soir, un sujet, alors tu nous diras si oui ou non il est délicat ou s'il est complexe ou pas, mais un sujet que, voilà, que nous avons voulu aborder. Alors déjà, peut-être une première question pour rentrer dans le bain, Daniel, est-ce que par le passé, l'Église, alors comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de l'Église adventiste, mais cela peut être aussi vrai pour d'autres congrégations ou mouvements, est-ce que par le passé, l'Église adventiste, par exemple, a eu à faire des modifications dans les doctrines ou des évolutions, est-ce que c'est déjà arrivé?
Oui, bon, la question, c'est vrai, elle est importante. Là, ce soir, elle concerne l'Église adventiste, si on veut parler comme si de manière, on se focalise, hein, un peu sur l'Église adventiste, mais ça peut être un prisme pour parler du christianisme en général. L'histoire du christianisme montre que jamais on est resté figé à un moment où il y avait comme un consensus, tout le monde était d'accord dès le premier jour et jusqu'à la fin. Sans qu'il y ait des variations, des contradictions ou des contradicteurs ou des opposants même. Déjà, quand Jésus parlait, ceux qui l'écoutaient disaient autre chose. Ils le contredisaient. Et pourtant, Jésus était la parole faite chair.
Oui.
Alors, si le Seigneur lui-même a été contesté, vous pouvez deviner que autour de lui, si on prend comme des cercles concentriques, plus on s'éloigne du Seigneur, plus cette parole-là peut être
Déformé.
gérée de manière très aléatoire.
Oui.
Alors, quand Jésus avait demandé à ses disciples, aux 12, dans Jean chapitre 7 ou bien dans Matthieu 16, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller vous aussi? Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ça, c'est comme un point d'ancrage pour dire que l'histoire du christianisme est fondée sur la parole vivante de Dieu, la parole qui s'est faite chair. Et c'est pour cela que Jésus lui-même va demander au Père dans sa prière, dans Jean 17, une des plus belles prières, on pourrait dire que la Bible contient, chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc cette parole globale va donner naissance à ce qu'on a appelé au cours des siècles des doctrines. Parfois, on a parlé de dogme, mais parfois, on n'ose pas parler de dogme, on parle de doctrine parce qu'on a peur, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, que le dogme s'apparente à du marbre ou du béton,
D'accord.
même du béton armé ou du béton vibré. Alors, on n'ose pas toucher à ça, on dit, on risque de se casser les dents. Mais
D'accord.
ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la parole est quelque chose de vivant, de vivant. Donc, si la parole est vivante, elle doit donner la vie. Elle ne doit pas créer des murs, elle ne doit pas créer des obstacles. Quand on commence à multiplier les paroles sur la parole, nécessairement on va faire des compartiments, comme des
D'accord.
cloisons. Et c'est là qu'on va dire, chacun va prêcher pour sa paroisse, ou bien on parle de cette expression, querelle de clocher, parce que chacun va venir avec sa vérité. Et ça, c'est un premier constat. Donc, l'histoire du christianisme a connu ces choses-là. Et maintenant, précisément dans le cadre de l'Église adventiste, oui, il y a eu des évolutions en matière d'enseignement, de réception d'enseignement, en matière d'expression, de formulation des croyances fondamentales de l'Église, ce qu'on a fini par appeler les doctrines de l'Église. On n'aime pas trop cette expression doctrine de l'Église, on lui préfère l'expression croyances fondamentales.
D'accord, ok. Donc on est d'accord que croyance et doctrine, c'est le même, enfin, c'est la même définition. Enfin, en tout cas, ça veut dire la même chose, on va dire.
En gros, on va parler d'enseignement. Voilà, quels sont les principaux enseignements que l'Église adventiste a retenus de la Bible?
D'accord.
Nous savons qu'à ce jour, l'Église officiellement a formulé, a exprimé, a défini, on va dire, 28 croyances fondamentales.
D'accord.
Mais l'Église n'a pas toujours eu 28 croyances fondamentales.
Effectivement.
L'Église a eu moins. L'Église a évolué dans sa formulation. Ça ne veut pas dire qu'on n'y croyait pas. On n'était pas encore mûr pour exprimer, pour formuler tel quel 28 points principaux pour dire voilà un peu ce qui identifie la foi biblique de l'Église adventiste.
D'accord.
Alors au début, les premiers adventistes n'étaient pas encore consensuels, on va dire. sur l'expression des doctrines. Il y a eu des évolutions dans les premières années déjà, avant même la création officielle de l'Église, il y avait des doutes. Certains n'étaient pas encore prêts pour observer le sabbat.
Oui, oui.
D'autres n'étaient pas prêts pour accepter que le Saint-Esprit faisait partie de la Trinité divine, et parce qu'on disait ça, c'est les catholiques qui l'ont inventé, donc on était anti-catholiques. Donc si on empruntait un mot à une autre congrégation, ça veut dire qu'on n'était plus soi-même.
Oui, c'est ça.
Donc ces prises de position étaient presque des prises de position, j'ai envie de dire, plus sociologiques que théologiques.
D'accord.
C'est-à-dire, pour ne pas être comme les autres, comme si aujourd'hui certains chrétiens refuseraient de dire « moi je prie 5 fois par jour », parce qu'en disant « je prie 5 fois par jour », ça pourrait faire penser à l'islam. Donc on ne veut pas être assimilé à l'islam, alors on ne dit pas ça, on va dire « moi je prie régulièrement ».
D'accord.
Je n'ai pas dit 5 fois, mais je prie 5 fois, seulement je dis « je prie régulièrement ». Alors c'est des éléments de langage qui pourraient parfois mettre en porte-à-faux certaines choses. Mais l'Église adventiste, oui, elle a évolué. Elle a évolué au début. Dans ses premières années, jusqu'à 1888, l'Église était encore dans une phase qu'on appellerait légaliste, c'est-à-dire puritaine, où il fallait presque garder les yeux, le cœur sur les commandements, comme si pour être sauvé.
Oui.
Après viendra la fameuse conférence générale de 1888 à Minneapolis, où il y a eu ce grand débat autour du thème de la justification par la foi. Et certains ont eu peur en disant si on parle trop de la foi, est-ce qu'on ne va pas oublier la loi? Et c'était un gros malentendu dans l'histoire de l'Église. Et ça a laissé des traces, même en 2017, il y a encore des gens qui ont cela en travers de la gorge, en disant comme si on n'a pas accepté une doctrine biblique. Ça, c'est des points d'ancrage où dans l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a eu évolution. Parfois, au moment de la Première Guerre mondiale, il y a eu une sorte de division, de scission, parce que certains disaient le commandement dit tu ne tueras point, pourquoi les adventistes participaient à la guerre ou à l'armée.
D'où le film donc, d'ailleurs qui porte ce nom.
Oui, alors ça a mené une vraie prise de position. Certains ont quitté l'Église adventiste officielle et ont créé le mouvement de réforme, etc. L'Église adventiste, mouvement de réforme, comme on l'appelle. Mais tout ça, ça dit quoi? Qu'on n'est pas au clair sur ce qu'on lit et l'interprétation à donner à ce qu'on entend. Alors, c'est toujours ça la grande question, même aujourd'hui. Et à l'ère d'Internet, la question se démultiplie de manière vraiment incontrôlée ou incontrôlable. Parce que l'ère, comme on le sait, l'ère peut contenir beaucoup de paroles. La toile aussi
peut
contenir beaucoup de propos. Et chacun prêche un petit peu sa compréhension, sa lecture des choses.
D'accord.
Alors, c'est difficile aujourd'hui, là, en ce moment, dans notre contexte, de faire l'historique. Mais il faut dire oui, l'Église adventiste a connu une évolution dans la manière de formuler ses doctrines, ses croyances fondamentales.
Alors, tout à l'heure, tu parlais de la notion de vérité, qui me semble quand même très importante. La notion de vérité, est-ce qu'on peut dire, de façon claire, qu'il y a une vérité, en tout cas biblique, une vérité, et que, en fait, la diversité de religions, finalement, c'est simplement des divergences de compréhension. Et comment on peut expliquer que d'une vérité est émergé tous ces courants, tous ces mouvements? Comment on peut expliquer cela?
Alors, maintenant, il faut se poser une question. Est-ce qu'on est... je réponds à ta question, ma question, tu l'as bien observé.
Oui.
Est-ce qu'on est... On veut avoir une lecture comptable de la vérité, ou bien est-ce qu'on veut avoir une lecture relationnelle? Parce que la vérité telle que la Bible la présente, surtout dans le Nouveau Testament, est d'abord une personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si on commence par définir la vérité à travers des doctrines, on va s'éloigner du Christ.
D'accord.
Je ne peux pas connaître la vérité si je ne m'attache pas à Jésus-Christ.
Okay.
Quand les Australiens regardent au-dessus de leur tête, qu'est-ce qu'ils voient? Le ciel.
Oui.
Les Néo-Zélandais aussi. Mais en anglais, on appelle les Australiens « the down unders », ok? C'est-à-dire comme s'ils ont la tête à l'envers.
D'accord.
Mais ça, c'est parce que c'est l'Afrique, c'est le contexte austral, ok? Mais il n'y a pas moins le ciel en Australie qu'en Suède.
Oui.
Où en Chine ou en Russie, en Sibérie. Là où on regarde, c'est le ciel. Tout le monde a le droit de dire c'est le ciel au-dessus de sa tête.
Donc c'est une question de point de vue.
Ah, un point de vue. Maintenant, quelle est la relation que j'ai avec Jésus-Christ ? Avant de lire la parole, il faut que je la rencontre. Rencontrer le Christ, c'est le premier pas pour être connecté à la vérité. Parce que si on ouvre sa Bible, on est à l'aise avec la définition littéraire, les mots, on peut pinailler sur les mots, couper les cheveux en quatre, connaître l'hébreu, le grec, l'araméen, tout ça, c'est intéressant. Je sais que c'est intéressant, même si parfois c'était un peu dur en classe, mais c'est intéressant tout cela. Mais on peut être, bien versé dans les textes et puis être pauvre en relation avec le Christ. Vous sondez les Écritures, dit Jésus, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, en effet, qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. De moi, Jésus a dit. C'est pas que Jésus ne dit pas les Écritures vous expliquent beaucoup de choses, non. Les Écritures vous renvoient à une personne. Alors, si nous venons maintenant à cette lecture comptable, on peut se poser la question, pourquoi une seule Bible et autant de courants chrétiens?
Oui.
Est-ce qu'il n'eût pas été facile, plus facile de n'avoir qu'une, même pas une branche, un tronc en branche?
Oui.
Comme le cocotier. Le cocotier est le seul arbre, je crois, où il n'y a pas de branche.
Oui, effectivement.
Et j'aime bien la douceur du jus de coco. Je fais saliver un peu quelques personnes pour vous faire apprécier la vérité.
Oui.
On a voulu mettre... C'est-à-dire, quand on a multiplié les croyances, les mouvements, c'est comme si on a voulu ajouter des branches à un cocotier qui, par nature, n'a pas de branches. Mais quand nous créons comme ça des diversités, j'ai envie de dire, mais presque des digressions, des déviations, on démembre un peu la personne de Jésus-Christ. Je le dis avec tout le respect que j'ai pour lui.
Oui, oui.
Donc, David, peut-être tu as un vêtement de marque. Hein? Imagine, je ne sais pas quelle veste tu portes sur toi. Imagine que c'est une veste de marque, ok, la haute couture, bien griffée.
D'accord.
À l'extérieur, ça se voit que c'est un vêtement griffé. Et à l'intérieur, dans les doublures, tu verras le label. Partout, il y aura quelque chose qui rappellera que ça, c'est un vêtement de marque. Donc, si on prend les doctrines, si on prend l'Église, si on tourne sous toutes les coutures, si on ne voit pas la personne de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a un problème.
D'accord.
Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que je ne peux pas venir avec une vérité, une belle lumière, tu vois. Et puis, plus je prêche cette lumière, plus ça divise. Il y a bien un problème, là. Christ ne peut pas être divisé en lui-même, il le disait quand il prêchait. Donc, quand nous venons à cette notion de vérité, je ne dirais pas qu'il y a une vérité, je dis qu'il y a la personne qui incarne la vérité, Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Je ne vais pas au Père par des doctrines, par des croyances, par des enseignements, je vais au Père par Jésus-Christ. C'est vrai que c'est un enseignement qui me fait découvrir Jésus-Christ.
Oui.
C'est-à-dire c'est une parole. Mais cette parole, elle devient rapidement secondaire lorsque je découvre, j'apprécie, je respecte, je cherche un petit peu cette personne qu'on appelle le Christ.
Alors,
lui, il est engagé à être avec ses enfants tous les jours. C'est-à-dire d'abord une personne. Alors là, j'ai donné priorité à la personne de Jésus.
Oui.
Je n'ai pas dit que la formulation, l'expression, permets-moi le mot, hein, qui n'est pas peut-être pas le plus heureux, mais je le mets en beaucoup de guillemets, mais pour faire plaisir à certains, le calibrage de certaines formules, de certains enseignements, ben ça rassure. Ça rassure. Tu sais, quand y a des gens qui ont besoin d'écrire les choses sur un papier pour être sûr que c'est compris, c'est là. Il y a des gens qui peuvent aller faire leurs courses sans liste. Il y a des gens qui ont besoin d'une liste pour aller faire des courses. Il y a des gens, quand ils voient des panneaux, ils les lisent à haute voix. D'autres, ils intègrent mentalement et ils avancent. Et on peut avoir le même résultat. Vraiment, il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés parce que c'est écrit noir sur blanc. C'est comme quand il y a des petites tensions, on dit, mais montre-moi dans la Bible où c'est écrit. Si ce n'est pas écrit, je ne peux pas croire.
Oui.
Tout à l'heure, tu parlais de l'église adventiste. Le mot adventiste n'est pas dans la Bible. désolé pour tous les adventistes du septième jour. On parlait de Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Désolé pour ceux qui aiment dire, voilà, c'est écrit dans ce banc. Non, il ne faut pas commencer en disant si c'est... Alors, je prends un principe. Soit je cherche un mot dans la Bible, soit je dis, est-ce que l'enseignement est là? Est-ce que la compréhension est déjà là? Parce que sinon, je risque de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas ou d'extrapoler sur ce qu'elle dit. Tu vois? C'est là que la notion comptable va venir s'installer et nous éloigner de cette relation. On va commencer à dire, dans l'Ancien Testament, c'était écrit comme ça. Dans le Nouveau, ce n'est pas écrit, ou l'inverse. Donc, je vais comparer. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche à dire ma vérité? La vérité de mon Église? Ou bien est-ce que je veux présenter la personne du Christ et ses enseignements à lui, qui deviendront, si tu veux, l'expression de la vérité biblique? Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Oui, très bien.
Ça paraît un peu... l'idée est la suivante. D'où est-ce que je pars? Tu sais? Est-ce que je pars de la source ou bien je regarde l'arrivée seulement? Ou bien je regarde là où sont posés mes pieds? Si je ne m'intéresse pas à la source, je pourrais penser que tout est là où je suis situé. Quand la Seine ne passe pas très loin de chez moi, quand je regarde les dimensions de la Seine ici, c'est comme à Paris, mais si je vais à l'estuaire au Havre, de Normandie, je regarde l'estuaire de la Seine, mais c'est très large, il y a de gros bateaux qui entrent là. Mais quand je vais dans l'Aube, où la Seine prend sa source, je me dis, mais c'est un petit ruisseau.
Oui. Et pourtant, c'est c'est la même chose.
Oui, et quand tu avances à 50, 100 km de ta source, c'est un petit peu plus large, c'est grand comme une toute petite rivière. Je ne lui donnerai jamais le nom de fleuve. Oui. Ça s'appelle la Seine. Déjà, ça s'appelle la Seine. Où est-ce que je me situe pour dire ça c'est la vérité ou ça ce n'est pas la vérité?
Mais en fait, lorsque tu dis cela, ça donne l'impression finalement que j'ai presque envie de dire, j'ai presque envie de plus faire attention à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, parce qu'effectivement, si on part de ce principe-là, effectivement, il y a un peu tout qui se dit finalement. Donc, j'ai envie de croire que ceux qui parlent et ceux qui disent des choses, ils sont convaincus de ce qu'ils disent et qu'ils pensent le faire de, enfin, en tout cas, ils pensent le que c'est une bonne chose de le faire. Et finalement, ça peut quand même amener à des, alors j'ai dit des dérives, mais en tout cas, ça peut amener à finalement à générer du négatif en fait.
Oui. Alors, avant d'arriver au négatif, tu te souviens d'une personne qui t'a dit un mensonge?
Oui.
Oui, même ça remonte à 10 ans. Hein. Il y a peut-être parmi nos auditeurs, quelqu'un se souvient d'un mensonge qu'il a proféré vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Oui. Mais au moment où quelqu'un dit un mensonge, le mensonge dont tu te souviens par rapport à quelqu'un qui l'a proféré, tu avais vu que cette personne était sincère.
Oui.
Rien sur son visage ne disait qu'elle mentait. Elle disait un mensonge avec conviction.
Oui.
C'était tellement sérieux que ça passe pour toi, tu n'as pas mis en doute. C'est après vérification ou après un autre témoignage ou une contradiction que tu dis « Ah, la personne, elle m'a dit bleu, mais c'était pas bleu. Voilà, j'ai la preuve que c'est vert. » etc. Mais quand si quelqu'un vient te dire ouvertement « Voilà, je vais te montrer un mensonge à côté de la Bible. » Tu vas lui dire « Ben, écoute, là, tu as beaucoup d'humour. »
Ouais.
C'est comme si le diable venait et avec écrit sur son t-shirt, je suis le diable, je suis venu pour te détruire.
Autrement dit, éprouvons ce qu'on entend, c'est ce que tu es en train de dire.
Maintenant, quand tu regardes, la vérité, on n'a pas besoin de la crier. On n'a pas besoin d'asséner la vérité. On n'a pas besoin d'assommer quelqu'un avec la vérité. Ce n'est pas à force de crier la vérité qu'elle sera crédible. La vérité se vit. Dans cette relation d'humilité, aller à Jésus-Christ, parce que Jésus a demandé de faire des disciples et de leur enseigner ce que lui, il a prescrit, tu vois. C'est comme un cycle, hein, ça retourne toujours au Christ.
Mm-hmm.
La foi biblique part de Christ, revient à Christ. Et plus tu t'éloignes de ce centre-là, plus tu, moins tu seras dans le rayonnement de cette vérité, parce que c'est tout est là la source. Oui. Maintenant, il y a des le risque quand tu parlais du négatif, je dirais, c'est le risque que porte le vraisemblable. Le vraisemblable, c'est il y a des paroles qui sont dites, des doctrines ou des enseignements qui sont joliment formulés. Est tellement joliment formulé que tu te dis ça c'est intéressant, on ne l'a jamais entendu comme ça. Tu vois? On ne l'a jamais entendu comme ça. Et quand tu dis quand les gens sont séduits par l'emballage, j'ai envie de dire, de quelque chose qui est vraisemblable, ça veut dire que ce sont les mots qui ont donné de la qualité, de la beauté à la chose. Mais pas le contenu lui-même.
Oui.
C'est le contenant qui était beau, mais pas le contenu. On n'a pas vérifié le contenu. Quand on a imaginé, par exemple, l'hypothèse que Jésus n'était pas vraiment venu en chair et en os, l'arianisme, tu sais, dans les premiers siècles,
oui.
Une des premières hérésies, qu'est-ce qu'on a dit? C'est possible. Parce que Dieu ne peut pas venir dans la chair humaine. Impossible. Mais beaucoup de gens y ont cru. Et au premier siècle, on était encore plus près de la réalité de la présence de Jésus sur terre. Si je te dis, le mot Trinité n'étant pas dans la Bible, pour revenir à ce mot, ben, il est impossible, inadmissible d'y croire. Ben, si je prends la chose de manière primaire, je vais dire oui, effectivement, le mot « Trinité » n'est pas dans la Bible. Donc, interdit de croire à tout mot qui entrerait dans une formule, j'allais dire doctrinale ou d'enseignement, et qui ne se trouverait pas dans la Bible. Quelqu'un peut dire « Oui, ça c'est vrai. » Si c'est pas dans la Bible, on rejette. Maintenant, la Bible ne porte pas le mot « Trinité », mais la Bible comporte beaucoup de références trinitaires. Beaucoup de formules trinitaires. Jésus lui-même employé pour le baptême, la formule trinitaire. Donc, ce n'est pas parce qu'un mot n'est pas là, réellement, techniquement, explicitement, que la vérité qu'il pourrait comporter en est aussi absente. Dans le contexte de la parole de Dieu, nous avons beaucoup points qui sont visibles ou qui sont invisibles en même temps, c'est-à-dire en termes de vocabulaire. Tu as du vocabulaire visible qui explicite bien les choses et puis d'autres qui ne sont pas là, mais ça ne veut pas dire que l'enseignement n'est pas présent. Aujourd'hui, nous avons peut-être un problème.
Allô? Ah, nous avons un petit souci avec le téléphone de Daniel. Alors, en attendant, William, si tu veux peut-être faire l'écho des auditeurs, le temps qu'on puisse retrouver.
Oui, justement, en fait, en faisant écho également, certains se sont peut-être posé la question sur nos doctrines en tant qu'adventistes. Faire un petit rappel rapidement. En fait, nous avons 28 croyances fondamentales.
Ah voilà, c'est bon.
J'étais juste en train de
retrouver Daniel.
J'étais juste en train.
On a été coupé là.
Oui.
Parce que peut-être j'ai eu un appel qui est entré et puis.
Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, du coup, William faisait une petite intervention et puis on ne perd pas le fil de ton idée. On revient tout de suite.
Oui, j'étais juste en train de combler en rappelant que nous avons 28 croyances fondamentales. Voilà.
D'accord. Ah oui, d'accord.
Mais entre-temps, il est revenu, donc je laisse sa place.
Okay. Alors, du coup, Daniel, on t'écoute.
Oui, tu vois qu'il y a des interférences, comme si deux vérités qui se prêchent sur le même micro.
Voilà.
Bon, nous revenons à la chose. S'il y a des tensions aujourd'hui, c'est parce que peut-être les gens ne sont pas convaincus que ce qui a été dit jusqu'ici vaut la peine d'être maintenu tel quel. Et puis, comme les connaissances augmentent, les informations circulent de manière beaucoup plus libre, le débat d'idées, l'histoire des philosophies, des courants philosophiques, la mondialisation fait qu'aujourd'hui le monde ressemble à un village, que dis-je, à une rue où tout le monde se connaît et on mélange facilement toutes les cultures, toutes les connaissances.
Oui,
Et
effectivement.
en faisant des parallèles, des recoupements, il y a comme une lecture transversale des choses. Et dans cette lecture transversale, on se dit, tiens, il y a un écho avec tel ou tel autre. Et effectivement, on pourrait raisonner pas mal de choses. Quand je prends l'hindouisme, je regarde certaines figures des divinités. J'ai grandi dans ce contexte-là, c'est-à-dire entouré d'amis hindous, etc. Je peux trouver des parallèles avec le christianisme. Mais je sais que ce n'est pas la même chose, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais je sais que c'est possible si je veux comme si développer une sorte de théorie. Facile. Mais je ne peux pas aller au-delà de ce que le texte biblique me permet de faire. Si je prends, j'ouvre la première page de la Bible, par exemple, dans ma compréhension occidentale de la rédaction d'un texte, je vais quand même dire qui est ce Dieu auquel on fait référence. La première phrase de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Personne ne me donne une information sur ce Dieu. Il n'y a même pas une introduction qui pourrait me
Le présenter,
rassurer,
oui.
m'informer. Et puis, mais ça pourrait poser un problème rédactionnel pour certains. Mais là, c'est là que je me dis, est-ce que je me trouve devant quelque chose ou devant quelqu'un? Quand j'ouvre la première page de la Bible, est-ce que je me trouve devant une série de faits ou bien c'est le Créateur qui se présente à moi? À cette question, dans mon intimité, je dois savoir répondre. Si je dis, ah oh là là, ce texte est mal rédigé, donc je ne peux pas y croire. On ne parle pas assez scientifiquement de ce texte, parce qu'on parle de la création. Je regarde ce texte, je peux dire, mais au fait, qui est témoin de cette création pour la raconter? Même son auteur présumé Moïse, ben, il ne sait pas
Il
à
n'était
son
pas
époque que
présent.
ça a été fait.
Ouais.
Je me dis, quand je regarde bien le texte, je comprends, je me dis, même l'homme n'a pas vu Dieu créer quelque chose. L'homme n'a pas vu Dieu faire pousser, laisse-moi le dire comme ça, un pistolet. Donc, il ne peut pas prétendre savoir. Donc, est-ce que c'est des faits qu'on est en train de mettre en évidence dans cette première page de la Bible ou bien c'est la personne de Dieu? Je reviens à la notion relationnelle de la doctrine. Quand j'ouvre la Bible, avant d'apprendre, je dois plutôt écouter. J'écoute quelqu'un, je rencontre quelqu'un. Après, les enseignements vont suivre, hein? Il n'y a pas de problème. Mais d'abord quelqu'un. C'est comme si tu entrais dans une bibliothèque sans ton ordinateur, sans bloc-notes, sans stylo, tout ça. Tu t'assois et tu écoutes celui qui t'invite, qui te fait entrer dans cette bibliothèque. Et quand tu l'as bien écouté, à ce moment-là, tu commences à ouvrir les livres. Et parfois, nous nous sommes précipités à ouvrir le livre, presque comme un document littéraire. Et on a fait tellement de discours que la parole de l'homme a remplacé la parole de Dieu. Et on entend tellement les hommes que Dieu lui-même ne parle plus. Et ça me fait peur parfois.
Oui,
Ça me
effectivement.
fait peur.
Effectivement.
Et
Alors,
là.
nous avons une intervention d'un auditeur, William, je crois.
Exactement. Nous avons Evelina qui dit, je pense que Dieu a toujours voulu se révéler tel qu'il est à ceux qu'il aime, et on comprend que les patriarches et apôtres avaient reçu beaucoup de révélations. Par exemple, nous dit Evelina, Paul parle de mystères que le Seigneur lui a révélés sans les nommer. Daniel également parle de visions qui sont scellées. Et s'il n'y avait finalement rien de nouveau, et s'il était simplement question de dépoussiérer des trésors oubliés, ou simplement comprendre des choses mal interprétées pour de diverses raisons. Voilà.
Oui, ça, alors c'est une bonne observation, ça, je pense, parce que qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? On pourrait dire qu'il y a une sorte d'incohérence historique ou chronologique. Pourquoi nous, avec toute notre technologie de compréhension, l'écriture, l'interprétation des écritures, même n'importe quelle langue, hein, pourquoi nous avons-nous plus de problèmes que ceux qui étaient à une époque où il n'y avait pas autant de techniques? Abraham reçoit la parole de Dieu, lève-toi, va, etc. Est-ce que aujourd'hui, si Dieu nous disait ça, on ferait la même chose? Et Abraham n'avait même pas de Bible en main. Est-ce que la première expression d'une, j'allais dire, d'une doctrine ne vient pas de cette foi personnelle? Je crois qu'il y a eu effectivement cette révélation, et puis chaque génération a eu l'occasion d'une relation avec Dieu, d'un certain nombre de révélations, de communications, et plus on a avancé, et plus, on va dire, la révélation s'est codifiée un petit peu dans des livres, des rouleaux, des parchemins, aujourd'hui on va dire la Bible, moins on entend de manière sonore Dieu s'adresser à des hommes, ou à des femmes aussi. Moi j'aurais aimé que, quand je lis les récits des prophètes, je vous avoue, n'allez pas le répéter partout, hein, j'aurais bien aimé que Dieu me parle comme il est venu parler à Gédéon ou à Moïse, des choses comme ça. Mais bon, après je me dis, après je souris moi-même comme si le Seigneur me disait, mais je t'ai donné deux testaments là, contente-toi. Alors bon,
oui, effectivement.
Qu'est-ce que tu fais? Mais seulement, on lit ces récits avec admiration. Et quand Daniel, par exemple, voulait comprendre un peu plus, Dieu lui dit, scelle le livre, c'est pas pour ton temps ça. Il y a des choses qui seront comprises beaucoup plus tard. Mais regarde beaucoup plus tard, pourquoi ce n'était pas aussi clair? Regarde toutes les, même dans l'église adventiste, toutes les hésitations qu'on a eues sur l'interprétation des prophéties de Daniel. Et pourtant, Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui a prévu ça, pour les temps de la fin. Et seulement, c'est une leçon d'humilité pour nous. Ce n'est pas parce que c'est pour plus tard que plus tard les gens comprendront encore mieux. Aujourd'hui, si nous avions compris clairement les choses, on n'aurait pas, je ne dis pas qu'on n'aurait pas ce débat, mais on n'aurait pas autant de variété, tu vois, ou d'options de principes, croyances, interprétations et par voie de conséquence de pratiques religieuses à partir de ce qu'on croit devoir dire.
Alors justement, tu parles de fin des temps et c'est intéressant parce que ça faisait partie un peu des grandes pistes de ce moment de réflexion. Je partage avec toi une réflexion qui m'est passée par la tête, qui dans la lignée de ce que tu viens de dire, afin que tu puisses nous dire ce que tu en penses. Aujourd'hui, bon, moi je suis membre de l'église Adventiste du Septième Jour. C'est un mouvement qui a environ 150 ans. Et je crois fermement, lorsque je regarde la nature et ce qui nous entoure, que nous sommes dans les temps de la fin. Et aujourd'hui, je me pose la question vraiment, pourquoi, alors, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on peut encore être étonné, surpris? Est-ce qu'on peut encore, on parlait d'évolution ou de évolution de doctrine ou de croyance, est-ce que ça peut encore arriver alors que Dieu est à la porte? C'est comme si, jusqu'à la fin, on n'aurait jamais finalement, on n'aura finalement jamais compris vraiment l'essence du message. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est comme si pendant 150 ans, ben en fait, on a mal fonctionné, et à la fin, il nous montre vraiment qui il est. Enfin, ça me paraît un petit peu difficile à appréhender, en fait.
Oui. Alors, je répondrai à ta question de la manière suivante. Je crois qu'à chaque génération, il y a eu des gens qui sont venus en donnant l'impression que c'est eux qui ont inventé la roue, le feu, et le fil à couper le beurre. OK? Dans leur enthousiasme, non, je dirais pas le mot enthousiasme, parce que c'est un mot trop riche. Comme si dans leur élan, ils ne se posent pas la question peut-être de l'utilité des lumières qu'ils apportent. La foi dans le retour du Christ nous fait regarder l'événement le plus important qui reste à s'accomplir dans l'univers. Parce que si le Christ ne retourne pas, ne revient pas, on aura encore à attendre et encore à parler, à raconter, à enseigner, à baptiser, à prêcher, à rassembler, etc. Mais si nous croyons que sur le tableau de bord de l'univers, de la vie, de cette condition humaine, tous les voyants disent que les temps sont de plus en plus mûrs, et que le Seigneur va revenir, qu'il est à la porte, est-ce qu'aujourd'hui, la question la plus cruciale, la plus précieuse, c'est le nombre de doctrines, l'interprétation de ces mêmes doctrines, ou bien l'état de préparation du peuple qui doit accueillir son Sauveur, et que le Seigneur va rassembler pour l'éternité. La prédication du message, est-ce que c'est la prédication d'un message de salut, d'espérance, inviter les gens à sortir de Babylone, comme il est dit dans la parole de Dieu, pour ne pas participer à ces malheurs, à ces fléaux? Est-ce que c'est le temps aujourd'hui de dire aux gens, choisissez, Dieu vous voit dans son royaume, vous pouvez encore décider de choisir la vie, ou bien nous allons passer du temps à couper les cheveux en quatre sur des phrases, des doctrines mal comprises, mal interprétées. Je ne suis pas en train de dire que nous avons tout compris.
Ouais.
Mais je suis en train de me demander quelle est la chose la plus essentielle. Sur quoi posons-nous nos regards? Nous devons encore réfléchir. Parce qu'un peuple qui ne pense plus est un peuple qui va mourir.
Ouais.
L'Église adventiste, lorsqu'on parle d'elle, arrête de réfléchir, il y a danger.
Alors,
un peuple qui ne pense plus est un peuple qui ne progresse pas. Alors seulement, il faut savoir comment nous voulons progresser. Est-ce que nous voulons progresser par une sorte de révolution copernicienne, en disant pendant 150 ans, pour reprendre ta référence à l'histoire, un peu plus, l'Église a dysfonctionné doctrinalement. Maintenant, nous devons dire la vérité ou promouvoir la vérité, ou bien nous avons peut-être besoin juste soit d'un dépoussiérage, comme Evelina le disait tout à l'heure, revoir nos fondamentaux. Qu'est-ce qui donne corps à cette Église? Qu'est-ce qui fait l'identité, j'ai envie de dire, allez, j'emploie le mot, doctrinale de cette Église? Qu'est-ce qui l'identifie par rapport à ses enseignements? Est-ce que l'Église adventiste est connue pour ce qu'elle ne fait pas, pour ce qu'elle interdit, ou bien pour ce qu'elle prêche comme message d'espérance et de salut? Parce que quand les gens entendent Église adventiste, qu'est-ce qu'ils entendent? Des gens qui ne mangent pas de pain, qui ne fument pas, qui ne boivent pas d'alcool, en tout cas officiellement. C'est ça que les gens entendent, ou bien les gens entendent dire, regardez le Christ, contemplez-le, venez à lui, c'est lui le Sauveur, le Seigneur. Jésus revient bientôt. Et attention, la Bible dit que le monde, le péché est jugé. Dieu a déjà commencé à juger le mal, et que cette dimension universelle à ce jugement, il nous faut nous tenir prêts, parce que le Christ, c'est le grand prêtre, l'avocat que nous avons auprès du Père, etc. Donc, qu'est-ce que nous disons? Parce que si c'est pour dire la même chose que les autres, ce n'était pas la peine d'avoir autant d'églises.
Oui.
Qu'est-ce qui nous identifie?
Le sens de notre existence.
Oui, parce que si l'Église adventiste croit dans ses racines, moi, je l'ai compris de cette manière, parce que j'en fais partie aussi, c'est-à-dire cette Église a une vocation prophétique. Mais si elle a une vocation prophétique, c'est qu'elle a un message prophétique. Et si elle a un message prophétique, c'est pour des temps prophétiques. Mais si elle ne peut pas prêcher ce message dans des temps prophétiques, qu'est-ce qu'elle fait de différent des autres églises? Si l'Église adventiste n'a rien de différent par rapport aux autres églises, honnêtement, ce n'était pas la peine pour elle d'exister.
Ouais. Alors, on a un commentaire d'un auditeur, William.
Exactement, qui nous dit « L'Église aujourd'hui n'a pas besoin de nouvelles organisations ou de nouvelles méthodes, mais d'hommes que le Saint-Esprit peut utiliser, des hommes de prière qui viennent au contact de la puissance de Dieu. »
Amen. Oui, oui. Ça, c'est bien. Parce que aujourd'hui, si peut-être il y a des tensions, des petites querelles, parce que certains veulent rajouter des enseignements, pensant que l'Église n'a pas dit suffisamment ou n'a pas tout dit. Parfois, j'entends même dire « Ah, on nous a caché la vérité.
»
On ne nous dit rien. Je crois qu'il y a même une chanson profane comme ça. On nous cache tout, etc. Mais bon, ça peut aider de temps en temps. Mais c'est comme si une sorte de théorie du complot doctrinal, une sorte de conspiration. Quel intérêt l'Église aurait-elle à prêcher un Jésus-Christ en disant « on ne vous dit pas tout ». C'est pas un trésor de guerre, ça, qu'on cache.
Alors, justement, un commentaire également de cette même personne qui nous dit « L'Église est à la recherche de meilleures méthodes alors que Dieu cherche des hommes meilleurs. Voilà, c'est une citation de Bounce.
Voilà. Alors,
Oui.
on
Mais
a...
peut-être un petit mot sur cette dernière remarque.
Oui,
C'est vrai
vas-y.
que parfois on a peut-être opposé une question méthodologique à la notion relationnelle ou spirituelle. OK? Mais la méthodologie peut être aussi empreinte ou imprégnée de spiritualité, c'est-à-dire une démarche. Une méthode est un outil. Une méthode ne doit pas être une fin en soi. C'est vrai que ce que le Seigneur nous demande comme première offrande, c'est notre cœur, pas notre savoir. Notre cœur. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 6, verset 5, juste après le credo d'Israël, Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, etc. Dieu nous demande une relation intime d'abord. Et après, les méthodes, les démarches, la manière de prêcher, etc., ça vient après. Mais peut-être parfois, c'est vrai, on a perdu du temps en organisant plein de réunions, à essayer de mettre en place des méthodes, en montrant notre savoir-faire, notre technologie, et on a oublié de poser nos genoux par terre.
Effectivement.
Et je crois que les plus belles victoires se remportent à genoux,
Très
pas
clairement.
dans des salles de comité. Mais
Alors.
ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de comité. Ce serait insensé. C'est-à-dire, Jésus lui-même dit, avant de mener une guerre, il faut s'asseoir et calculer ses ressources. Avant de construire une tour, compter un peu ce qu'on a. On ne va pas comme ça au petit bonheur, la chance. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il faut une organisation. Seulement, l'organisation ne doit pas être une fin en soi.
D'accord. Alors pour finir, peut-être que d'ailleurs tout au long tu as répondu à la question, mais peut-être voilà quand même dernière piqûre de rappel. Alors on a tous, ou en tout cas une grande partie, été confrontés à ces choses dont on disait, peut-être des nouvelles lumières, des choses qu'on entend, qu'on voit sur YouTube, sur bref, partout. Et quand je le dis, on le sait tous au fond de nous, mais peut-être une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Comment se comporter face à cela? Parce que je reste convaincu que l'être humain est par définition un être humain, donc voilà, il peut être empreint en doute, il peut être influencé, il peut être influençable, bref. Comment se comporter? Quelle est la bonne attitude à avoir face à cela?
Écoute, le doute raisonnable, je crois, il est important, il est utile. Si certains hommes n'avaient pas douté, on n'aurait pas d'électricité aujourd'hui, on n'aurait pas, Edison n'aurait pas inventé l'ampoule, on n'aurait même pas d'ordinateur, de téléphone. Je crois que ce doute positif, c'est un doute constructif. Quand je ne sais pas, je peux me poser des questions. Mais il faut faire une différence entre la remise en question, c'est-à-dire se poser des questions sur quelque chose, sur quelqu'un, et la remise en cause. Parce que parfois, en faisant des remises en question, certains en sont venus à faire des remises en cause. Et on a vu des gens parfois quitter l'Église à cause de ça, de cette confusion entre remise en question et remise en cause. Je peux remettre en question ma propre foi. En relation avec Dieu. Parfois, je me pose des questions sur le Seigneur. Moi aussi, j'ai mes questions sur Dieu, sur la foi, sur la première page de la Bible, la deuxième, la troisième, la 118e page de la Bible. Il n'y a pas de problème. On a tous. Mais cette remise en question ne doit pas m'amener à la remise en cause, au doute qui devient fermeture, rejet. Parfois, il y a des gens qui disent, je vais prendre un peu de recul. Mais ils prennent tellement de recul qu'ils finissent par s'éloigner. Et après, ils veulent revenir, mais la distance à parcourir pour
Trop
revenir est
longue.
tellement longue qu'ils se disent, je reste là où je suis. Alors, quelle attitude? Ces piqûres de rappel, oui, il faut de temps en temps une petite piqûre de rappel. Mais attention aux seringues contaminées. Je dis bien, attention aux seringues contaminées. Parce que parfois, parler des textes bibliques, ça peut devenir, excuse-moi l'expression, c'est peut-être mal à propos, mais je l'emploie pour me faire comprendre, c'est comme une petite drogue, ça. Il y a des gens qui aiment bien leur petite dose, il faut venir montrer, Bible en main. Mais il y a quelqu'un qui a pris la Bible aussi pour dire des bêtises à Jésus-Christ.
Mais ça tombe
Et
même.
il y a, ah ben, merci de le confirmer, ça a commencé dans le jardin d'Éden. On prend la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Maintenant, je ne suis pas en train d'exonérer l'Église, notre Église, de toutes ces hésitations.
Oui.
Parce que l'histoire de la théologie adventiste montre que dans la douleur, dans les larmes parfois, l'Église a dû apprendre à se relever de certaines négligences. Et l'Église a dû apprendre à revenir sur les bases fondamentales. Aujourd'hui, peut-être notre Église est confrontée à certains problèmes de doctrine aussi concernant la création, parce qu'il y a des courants dans l'Église adventiste qui ne veulent pas trop croire dans une semaine littérale de la création. Parfois, on peut en trouver des gens bien placés pour dire cela, mais l'Église, dans sa majorité, veut rester attachée à la parole de Dieu, telle qu'elle est dite en toute simplicité. D'ailleurs, Dieu n'avait pas besoin de 6 jours pour créer tout ça. En 6 secondes, il aurait pu tout créer.
Oui.
Allez, j'exagère, en 6 minutes, il aurait pu tout faire.
Oui.
Et pourquoi il a voulu inscrire ça dans l'ordre des jours? C'est bien pour que nous puissions comprendre de cette réalité. Comment être connecté au quotidien si Dieu avait pris 6 secondes seulement pour tout créer?
Oui.
1 seconde aurait suffi. Mais quelle leçon? Dieu est un pédagogue. Et parce que Dieu est un pédagogue, mon attitude doit être aussi comme une réponse à cette pédagogie. Quelle est la pédagogie de Dieu? Dieu me dit, voilà, je ne te dis pas tout, mais je suis là. Et si tu as compris que je suis là, ben tout est là.
D'accord.
Si tu cherches à tout comprendre textuellement, tu vas peut-être te mettre la tête dans les livres et tu vas peut-être oublier de voir quelqu'un, moi. Et combien de fois on a ouvert la Bible mais on n'a pas vu Dieu? Combien de fois nos lectures, nos réunions sont peut-être peuplées de belles paroles et chacun de nous, à commencer par moi, on s'est peut-être trompé parfois. On a rempli l'espace de paroles d'hommes et ce qui est inquiétant, c'est que si nous n'y prenons pas garde, nous pourrons encore tomber dans ces mêmes travers. Alors l'attitude pour moi, c'est la plus simple, revenir à cette rencontre avec le Christ, sonder les Écritures pour rencontrer Jésus, et parce que Jean dit lui-même dans son épître, hein, celui qui a le Fils a la vie, la vie éternelle, la vie éternelle. Alors je ne suis pas sauvé par la liste de doctrines, je suis sauvé par celui qui est la vérité, qui a incarné la vérité. Vérité venue de Dieu. Quand nous lisons l'évangile de Jean, on comprend cela bien. Moi, je fais ce que mon Père, celui qui m'a envoyé, m'a demandé de faire. Je fais les œuvres parce que je viens de lui. Jésus le dit clairement. Donc, comment comprendre Dieu sans Jésus-Christ? Et comment regarder Jésus-Christ sans découvrir le Seigneur, le Tout-Puissant lui-même? Donc, peut-être une attitude de recueillement, d'humilité. Demander au Seigneur de nous aider à l'aimer. Plus nous allons l'aimer, plus nous allons peut-être l'écouter. Et quand nous allons prendre du temps pour l'écouter, nous allons le comprendre. Le comprendre. Les gens n'ont pas besoin de connaître, d'entendre, comment dire, l'érudition des adventistes.
Oui.
Les gens ont peut-être besoin d'entendre une parole qui sauve.
Mmh.
Une parole qui dit Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Parce que si on pouvait en moins de 10 mots prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un, qu'est-ce qu'on va lui dire? Moi, je résume cela en 7 mots. Dieu veut te voir dans son royaume. C'est pas long à retenir.
Oui.
Mais si tu commences en disant, ben voilà, il y a une nouvelle lumière, le sabbat lunaire, le sabbat biblique, pas biblique, la création, trinité, pas trinité, la personne risque d'être de partir. Surtout que dans notre monde moderne, les gens n'ont pas envie d'être embarrassé par des chapitres et des chapitres.
Oui.
Qu'est-ce qui peut être dit de manière précise?
Concise. Mais
pour comprendre
pratique.
L'essentiel, voilà, comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel se voit avec le cœur.
Mm-hmm.
Et ça, nous disons bien encore, parce que je ne veux pas m'attarder là-dessus, les croyances fondamentales, l'expression, la formulation des doctrines est importante.
Mm-hmm.
Mais ne commençons pas notre relation avec le Seigneur par ça.
Par ça, oui. Ne pas mettre la charrue
avant les bœufs. On va regarder par le petit bout de la lorgnette. Quand nous regardons aujourd'hui les tensions, c'est peut-être parce que notre espace est saturé par ces choses-là.
Oui, oui.
Et plus on a voulu raisonner, même dans le courant protestant, On a vu, cette année, on fête les 500 ans de la réforme, mais plus on a voulu comprendre, exposer, comment dire, disserter, disséquer les paroles, les analyser, mais plus on a vidé les églises. C'est quand même surprenant.
Effectivement, en tout cas,
Alors, il faut
c'est...
peut-être faire un retour simple et humble à la parole de Dieu. Seigneur, parle, tes serviteurs veulent écouter.
En tout cas, s'il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est vraiment ce côté de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. On a un dernier commentaire, peut-être, William,
Oui,
d'un.
exactement. Alain qui va dans ce sens complètement en disant notre Église a surtout besoin de réveil et de prière. Il cite
Oui.
Apocalypse 12, 14 qui parle des saints qui persévèrent dans la foi de Jésus-Christ et qui gardent les commandements de Dieu. Alain de
Apocalypse
préciser,
14, 12, oui.
voilà. Pourtant, voilà. Alain de préciser que cette description ressemble bien à notre Église. Il dit restons unis et attendons l'appui de la dernière saison. Et crions sur les toits que Jésus-Christ revient bientôt. Amen.
Oui, amen.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup Daniel pour ces éclaircissements, en tout cas ce moment de réflexion autour de cette thématique. Je sais pas, William, comment tu t'en es sorti grandi?
Bah, complètement. En fait, en tout cas, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que sort finalement de notre relation avec Dieu. En fait, plus nous allons nous rapprocher de Dieu, et plus effectivement nous allons quitter ces doctrines, puisque finalement ce sont que des lignes. Mais en fait, il faut quitter ces lignes et puis vraiment connaître Dieu personnellement, s'approprier vraiment ses croyances.
Voilà, alors Daniel, je te propose qu'on puisse, comme la dernière fois, prier afin que voilà, ben, l'Esprit de Dieu puisse faire croître voilà, ce qu'il a semé dans nos cœurs. Et puis que voilà, que nous puissions ben, continuer dans cette direction de pouvoir d'abord rencontrer Christ et ensuite nous focaliser sur le reste en fait. Alors du coup, je t'invite, si tu le veux bien, à nous mener à la prière.
Pas de problème. Mais prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te glorifier et te louer parce que c'est toi le Seigneur. Nous croyons que c'est toi le Créateur. Alors que nous entrons dans le sabbat biblique, nous voulons te dire nous t'adorons. Ta parole nous demande aussi de t'aimer. Alors permets-nous de te dire que nous t'aimons. Comme première démarche relationnelle. Mais nous avons besoin de comprendre, de te comprendre. Alors, en toute simplicité, en toute humilité, nous demandons au Saint-Esprit de nous guider, de nous éclairer. Parce que la parole dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Jésus a promis que lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Alors, la première vérité à laquelle il nous conduit, croyons que c'est la personne de Jésus. Nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à rester attachés à Jésus-Christ, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les moments où on a l'impression que peut-être notre Église ne va pas dans la bonne direction, où tout n'est pas clair, que nous regardions à Jésus-Christ pour rester debout, pour rester fermement dans le chemin de la vérité, de l'espérance, le chemin du salut, qui est le chemin de l'éternité. Seigneur, nous n'avons peut-être pas toujours eu une attitude humble devant toi pour t'écouter. Nous avons peut-être préféré dire ce que nous pensions savoir, ce que nous croyons savoir. Parfois, il y a eu peut-être une sorte de concurrence, de compétition dans nos lectures différentes. Et nous avons rempli jusqu'à saturation l'espace ecclésial ou les espaces de partage. Et nous avons oublié de t'écouter. Alors, dans cette démarche, nous voulons te demander de nous aider à prendre le temps de nous poser et de nous asseoir à tes pieds pour que tu puisses nous parler d'abord. Et une fois que nous t'aurions entendu, à ce moment-là, que le Saint-Esprit nous utilise pour partager ta parole, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes l'occasion d'exprimer, de partager ces choses ce soir à travers la radio, mais que nous ayons aussi ce souci de partager à nos proches, à nos voisins, à ces personnes que nous prétendons aimer, à ces personnes que nous rencontrons régulièrement, pour que dans chaque occasion que tu nous offres, nous puissions partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, que nous puissions dire à ceux qui nous entourent, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour donner une espérance à l'humanité. Dans ces temps de troubles, dans ce temps d'interrogation sur le monde, sur son économie, sur la politique des uns et des autres, nous te prions pour que tes enfants se laissent consacrer par toi dans l'humilité, dans le réveil, la réforme, dans un esprit de prière, dans une soumission totale à l'action du Saint-Esprit, que ton peuple se tienne prêt pour faire briller la lumière que tu lui as confiée lorsque tu l'appelleras individuellement ou collectivement à répandre cette bonne nouvelle du salut dans le monde entier. Que ta grâce nous entoure, que ta paix soit dans nos cœurs et que rien ni personne ne nous sépare de toi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci beaucoup à toi, Daniel. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Et encore merci de la part de tous les auditeurs pour ce moment de réflexion.
Merci à tous. Ok, salutations.
Très bon sabbat à toi.
Merci, bon sabbat à tous aussi.